Chapitre 44. Après avoir aidé au rangement, notre petite troupe reprit le chemin de la ruelle. Les couloirs grouillaient à nouveau, les gardes ne se déplaçaient plus qu'en groupe, les frères annotaient des plans. Partout, on sentait l'état d'urgence s'intensifier. En voyant toute cette activité, Nathan me glissa. Nous ne pouvons rien faire d'autre qu'attendre qu'ils débouchent pour voir s'ils arrêtent leurs recherches ou s'ils tentent autre chose. Auquel cas, nous devrons improviser. Il jouait négligemment avec le détonateur qu'il avait sorti de sa chaussette. Je l'arrêtai. Il a survécu à l'eau glacée de la rivière. Je ne suis pas du tout sûr qu'il ait été conçu pour te résister. Range-le avant de tout faire sauter. Puis j'ajoutai à l'attention de Derek. Je fais un saut à la salle des communications appelée William, puis Nathan et moi retournerons au moulin. On y passera le reste de la journée. William me suivait complètement sur ma gestion de cette crise, mais il tenait surtout à se rendre compte par lui-même de mon état après l'attentat et de ma capacité d'action. Lorsque je regagnai notre pièce, Nathan avait vérifié son matériel et était en train de changer les piles des lampes. Je glissai deux duvets dans un sac. L'environnement souterrain nous paraissait maintenant complètement normal. En quelques jours, j'avais oublié à quoi pouvait ressembler un feu rouge ou un supermarché. Rien de tout ce qui faisait le monde contemporain ne me manquait. J'avais l'impression de vivre ici depuis des mois. Nathan semblait maintenant habitué à toutes ces choses qui le stupéfiaient encore il n'y a pas si longtemps. Les gardes, les chercheurs, laïcs ou frères en habit noir et blanc, la juxtaposition du matériel ultra sophistiqué et de ce dédale enfoui depuis des siècles, tous ces anachronismes et ces associations décalées formaient un ensemble aussi inédit que spectaculaire. Tout paraissait pourtant être à sa place, comme si le choc des deux mondes était dans l'ordre des choses, naturel au sens le plus profond du terme. En passant entre les aimants géants sur le chemin du moulin, nous fîmes le bruit de deux camelots de foire trimballant toutes sortes d'étranges bibelots. Des gardes étaient postés aux grilles jalonnant l'accès au moulin, et deux chercheuses sondaient les murs, l'une armée d'un détecteur de métaux à cadre et l'autre d'un scanner 3D muni d'une sonde en forme de T qu'elle promenait sur la paroi. Sur leurs écrans s'affichaient des formes ondulantes vertes mouchetées de bleu. La géophysicienne que j'avais reconnue au réfectoire me salua et précisa qu'elle n'avait encore trouvé ni métal ni cavité. Nous les regardâmes travailler quelques instants avant de poursuivre notre route. Le vestibule précédant l'entrée du moulin était maintenant encombré de matériel. La porte bouclier était grande ouverte et deux gardes se tenaient debout, prêts à la refermer à la moindre alerte. Les projecteurs étaient allumés et des hommes s'affairaient en tous sens. Certains étaient même suspendus aux parois et passaient sur les parties hautes les sondes de radar électromagnétique pour mesurer l'épaisseur de la roche à la recherche d'éventuels vides, couloirs, cavités ou caches. Je me dirigeais vers un chef d'équipe qui tenait un plan déroulé et indiquait à ses collaborateurs les secteurs à sonder. J'attendis qu'il ait terminé. Les hommes avec qui il s'entretenait étaient vêtus comme dans un film de science-fiction, harnachés pour s'accrocher à des filins, portant leur matériel sur le dos et d'étranges tubes et perches à la main. Ils venaient de sonder le dessus de la plus petite des trois bâtisses sans résultat. Une fois leur nouvelle zone de recherche définie, ils s'éloignèrent en plaisantant. Tout a l'air de bien se passer. L'homme au plan termina de rentrer les résultats sur sa tablette et m'adressa un large sourire. C'est souvent la première fois qu'ils ont l'occasion d'appliquer sur le terrain ce qu'on leur enseigne dans nos centres. Le site est exceptionnel. Et on peut potentiellement découvrir des trésors scientifiques et archéologiques. Que demander de plus? Nous cherchons un endroit calme où nous ne dérangerons pas vos recherches. Les deux maisons de gauche ont été passées au peigne fin. Vous pouvez y aller. De toute façon, les fouilles seront finies d'ici une heure, tout au plus. Ensuite, nous retournerons à nos quartiers pour décider quoi faire si nous n'avons rien trouvé. Vous aurez tout loisir de vous installer où vous voudrez. Le sourire franc de cet homme ne m'était pas inconnu. Nathan se dirigeait déjà vers le premier édifice, mais je restais sur place à le dévisager. Je n'arrivais pas à le restituer. Nathan revint sur ses pas et me prit doucement le sac des mains avant de s'éloigner à nouveau. « Pardonnez-moi, mais j'ai la sensation que nous nous connaissons. »« Pas nous directement, mais mon frère a travaillé sous vos ordres lors de la première expédition. J'étais trop jeune à l'époque. Tout le monde dit qu'on se ressemble beaucoup. Il n'est pas avec nous ? Il est attaché depuis plus de 6 mois au projet de restauration des temples Khmer. Je le remplace. À l'entendre parler et diriger les recherches, on lui aurait donné une 40aine d'années, mais à la lumière de ce qu'il venait de me dire, je le considérais d'un autre œil. Il devait avoir à peine plus de 25 ans. Je le laissai à sa tâche et rejoignis la maison où Nathan avait choisi de s'installer. Le rez-de-chaussée devait avoir servi de séchoir. Des cordes tendues reliaient des poteaux sur toute la longueur de l'unique pièce. J'empruntai l'escalier. Les marches étaient polies par l'usure et les siècles. Les veines du bois s'étaient par endroits légèrement fendues, mais le travail et la tenue dans le temps étaient remarquables. Le premier étage avait sans doute été un atelier de confection. Il y avait encore de nombreux outils nécessaires au filage et aux travaux de couture. Lames, battoirs, peignes, racloirs, fuseaux, quenouilles, rouets. Je savais que le lin, utilisé pour les chemises et les frocs des moines, ou le chanvre, pour le papier et les cordes, devait macérer plusieurs jours dans l'eau avant d'être filé. L'un des bassins au moins avait dû remplir cet usage. Le deuxième étage avait certainement été, quant à lui, une fabrique de sandales et de chaussures. Il restait encore des pièces de cuir et ce qui m'avait l'air d'être du feutre. J'ai retrouvé Nathan, occupé à traîner 2 tables pour les placer face aux fenêtres. De là, nous verrons tout, ce sera mieux pour réfléchir. Quel âge donnes-tu aux chercheurs que nous venons de voir?
Je sais pas, 30, 35?
Tu peux enlever 10 ans.
Mince, vous recrutez au berceau.
D'après certains, parfois même dans la vie d'avant.
Ça, c'est de la formation continue.
Je dépliai nos duvets pour rappeler discrètement à Nathan qu'il devait aussi se reposer. Nous prîmes place, chacun à notre table devant les fenêtres. Nous surplombions l'entrée, la place et l'espace qui s'étendait jusqu'à la rivière. Je posai mon sac à dos sur la table et en sortis un bloc et 2 stylos.
« Comme à l'école ?» plaisanta Nathan.
« Exactement. Ce que j'écris, c'est ça de moins à retenir pour la mémoire.
Et ces jours-ci, elle a bien besoin d'un petit coup de main parce que ça chauffe pas mal.
Je vais descendre fureter un peu. » Il me tapota amicalement l'épaule et dévala les escaliers. Je le vis passer sous ma fenêtre. Ces gens qui s'affairaient, les voix qui s'interpellaient et parvenaient parfois à couvrir le son des tonnes d'eau qui se déversaient sans arrêt, la lumière trop blanche des projecteurs, tout cela me rappelait les tournages. On ressentait la même effervescence teintée d'un apparent manque de cohésion. Les techniciens suspendus au filin mettaient la dernière main à la peinture des fonds des décors, le chef menuisier dirigeait ses équipes, les gardes protégeaient le plateau des intrus. J'avais du mal à croire que tout ceci n'était pas un rêve. Peut-être en raison des similitudes avec les studios de cinéma, mais surtout à cause du poids infernal de la réalité. Mon esprit cherchait à se distraire un moment du fardeau des vérités et des risques qu'impliquait ce lieu en s'accordant un dérivatif. Nous étions entre copains sur le tournage d'un film et nous ne risquions rien. Cette illusion ne dura pas longtemps. Juste assez pour laisser aux idées le temps de reprendre leur place sans subir la pression. Je sortis une calculatrice de mon sac. En la prenant, j'aperçus le cahier sur lequel il me fallait absolument écrire avant ce soir. Je commençai à tracer sur mon bloc un schéma du moulin, me remémorant comment il avait été construit pour essayer de deviner où les frères auraient pu cacher le lieu où ils pratiquaient leurs expériences. Je tentais de me mettre à la place de ceux qui avaient créé cet endroit, avec les idées et les croyances de leur époque. Il était évident que le laboratoire ne pouvait être que près d'ici. J'imaginais les choses les plus insensées. Peut-être suffisait-il de pousser un levier pour que les machines entraînées par le moulin se transforment en un autre mécanisme? Impossible. Ou alors peut-être ne trouvions-nous rien parce qu'il n'y avait rien à trouver. Impensable. Trop d'ouvrages affirmaient que tout n'avait pu être déménagé à temps lors de la prise du château. Il devait forcément rester quelque chose quelque part, mais les raisonnements ou les outils employés n'étaient pas les bons. J'avais noirci plus d'une 10aine de pages lorsque Nathan remonta. Il me trouva au milieu de schémas, de calculs, de citations, le tout apparemment aussi anarchique que disparate. Mais comme avec le cheminement d'une pensée, il était trop tôt pour parler de raisonnement. Les éléments le composant pouvaient être très divers et sans lien évident. « Alors ?» demanda Nathan. « Tu as découvert qui de la poule ou de l'œuf est arrivé le premier ? Ou tu as seulement calculé le prix de revente des pépites qu'on pourrait trouver ?»« J'ai fait le tour de toutes les ouvertures que comporte cet endroit. » Il y a en tout 49 fenêtres, 18 bassins, 109 niches ou placards, 16 trappes, 22 bouches d'aération et 14 portes. J'ai compté aussi. Rien de nouveau? Les chercheurs disent qu'il n'y a rien dans les murs. Ils sont en train de remballer leurs appareils. Il y a des engins carrément incroyables. Je ne savais même pas que ça existait. Des radars à pénétration de sol, des sondes à résonance magnétique protonique et tout un tas de trucs, c'est de la science-fiction. Ce sont surtout des techniques très pointues utilisées dans des secteurs de niche. Nos chercheurs les ont customisées, voire carrément développées exprès. En tout cas, c'est très impressionnant. Nathan s'assit et commença à griffonner à son tour. Le temps passait lentement, comme si nous tournions tous au ralenti. Après l'urgence de la nuit précédente, et dans l'attente de ce qui nous guettait très prochainement, ces quelques heures constituaient un répit, un havre de paix où chacun pouvait se concentrer et rassembler ses forces. J'oscillais entre l'envie de voir les événements s'accélérer et la crainte de ne pas être capable de les suivre. Par la fenêtre, je vis les chercheurs sortir du moulin en petits groupes. Bientôt la porte se referma. La fatigue se faisait sentir et moins d'une heure plus tard, Nathan s'était allongé sur une table, recroquevillé dans son duvet. Je sortis le petit cahier. Étrangement, il ne contenait plus que quelques pages vierges, comme si le hasard et le temps s'étaient entendus pour que le premier tome finisse ce soir-là. Les mots vinrent vite. Le but n'est plus pour moi seulement de préciser le passé, mais surtout de te donner les dernières indications comme avant un départ. De te transmettre un message qui, en mon absence, te permettra d'avoir confiance en toi pour me remplacer. Tu dors paisiblement. Il est difficile d'envisager le pire quand règne la sérénité. J'ai pourtant le pressentiment que je vais devoir bientôt partir, seul. J'ignore encore quand, comment. Je sais qu'en mon absence, tout le monde s'adressera maintenant à toi comme à moi, pour trouver les mêmes valeurs, les mêmes forces. Tu peux compter sur le sage comme sur tous les autres. Je n'arrive pas à écrire tout ce que j'ai à te dire aussi clairement que je le voudrais. Peut-être est-ce simplement parce que je n'ai pour me guider que des intuitions. Ces pages m'ont suivi depuis l'attentat en Écosse, à Chartres, autant d'expériences où j'ai appris à ressentir plus fort, à tenir à la vie avec plus que de la rage. Depuis ces dernières semaines, j'ai atteint de nouvelles frontières. Je n'avais jamais eu aussi peur, je n'avais jamais eu aussi mal, mais je n'ai jamais été aussi heureux de vivre. La vie n'est qu'équilibre. Les joies y sont aussi fortes que les peines. Les plaisirs aussi violents que les douleurs. Les doutes aussi puissants que les certitudes. À l'heure qu'il est, je n'ai peur que d'une chose. Je suis convaincu que nous allons gagner. Je suis sûr que nous allons trouver le laboratoire et repousser les fous qui menacent la cité. Mais à quel prix? Quand j'écris que la victoire nous est promise, c'est au groupe que je pense. Mais il se peut très bien que ma vie ou la tienne fasse partie du prix à payer. Nous avons vécu une amitié comme la vie n'en permet que rarement. La contrepartie doit-elle être la séparation? J'ai peur de perdre ce que nous vivons. Mon ami, mon frère, je suis terrorisé à l'idée d'en être privé. Tu es le seul être qui me rattache à la normalité. Tu es devenu le trait d'union entre ce que j'étais et ce que je suis. Tu es ma preuve que j'ai été innocent. Je saisis mieux maintenant quel lien invisible unit les jumeaux. La souffrance de l'un quand l'autre est blessé, le poids des absences, l'intolérable silence du cœur lorsque la voix intérieure, répétant sans cesse qu'on n'est pas seul, s'est tue. L'ironie de la vie, c'est que nous devons ces fabuleux moments à nos pires ennemis. Jamais tu ne serais venu ici s'ils ne nous y avaient pas acculés. À force de comploter, ils nous ont offert un bonheur sans égal. Quelle que soit la raison de mon départ, agis uniquement avec ton esprit. Ne mêle à tes actes ni haine, ni désir de revanche. Trouve le labo, si nous n'avons pas encore réussi. Défends-toi et défends les autres. Tiens ta place et reste un élément du tout. Une fois le danger écarté, règle tes comptes sans rien oublier. Si tu t'y prends trop tôt, il ne s'agira que de vengeance. Mais si tu attends d'avoir accompli ta mission, cela deviendra la justice. Ne compte que sur toi pour affronter tes doutes. Demande-toi ce que j'aurais fait à ta place. Je t'aiderai autant que possible. Tu m'as aidé, comme Andrew, comme mes parents, sans même jamais t'en rendre compte. La nuit doit être tombée maintenant. Je vais te réveiller et nous allons regagner les quartiers hauts. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce ne sont pas nos ennemis que je redoute. C'est pour toi que j'ai peur, pour tous ceux que j'aime trop fort. Sans aller jusqu'à dire que je suis heureux de me colter avec les truands qui campent au-dessus, je peux au moins avouer que je n'ai pas peur d'eux. J'en suis presque fier. On se rassure comme on peut. Ce qui me terrorise par-dessus tout, c'est que l'on puisse vous faire souffrir ou m'éloigner de vous. En cet instant, je préférerais être seul et ne pas vous connaître. J'aurais probablement moins de force pour aller me battre, mais certainement moins de faiblesse aussi. L'équilibre est en toute chose. Maintenant, je dois te laisser. Tu es à la hauteur. Lorsque tu liras ces lignes, Dieu seul sait où je serai. Ce cahier t'aidera. Garde la foi.